C'est pas faute d'avoir essayé.
C'est pas faute d'avoir essayé. Donc je vais en quelque sorte servir la soupe et faire le battleur pour ma camarade, collègue et mentor, Elisabeth Von Arburg, que je vais vous présenter rapidement. Bon, de toute façon, Elisabeth,
il n'y a
plus besoin, tout le monde la connaît. C'est quelqu'un qui est né, comme on l'a dit tous ensemble, au siècle dernier.
Première moitié du siècle dernier.
Qui a écrit de nombreuses choses dans sa vie, elle nous en parlera. Qui a été ici au festival pendant deux jours pour participer, enfin pour organiser et diriger un atelier d'écriture. Qui est également, je crois, tu dois toujours être l'auteur francophone le plus titré ou avec le plus de prix, non ? T'en es à plus de 30.
Sûrement, non. Je ne sais pas du tout. Oui, il y a une trentaine de prix.
Ce qui commence à faire beaucoup, disons. Quand on commence à avoir, je dirais, au moins un prix par an d'écriture, c'est qu'à mon avis, il y a...
Non, c'est pas un prix par an, c'est des bouquins qui ont plusieurs prix.
Je triche. C'est ça. Et une des particularités d'Elisabeth, on y reviendra, c'est qu'elle a écrit dans plusieurs genres, sous plusieurs formes, qu'elle a fait un travail, en plus d'être écrivain de livres ou de nouvelles, elle a été aussi théoricienne, elle a écrit des articles, elle a écrit des chansons, tu as fait des contes, tu as travaillé aussi dans le théâtre peut-être,
non, pas vraiment le théâtre, non, pas le théâtre. Non, j'ai fait un scénario de film, et j'ai surtout écrit ce livre. Tada! Comment écrire des histoires, guide de l'explorateur, que je choque, que je vends à toutes les années, tous les inuits, recommandé.
On pourra en parler là. Et donc, je dirais d'une certaine façon, on devrait le dire, tu es né en France, mais tu es allé vivre dans la partie francophone du Canada, au Québec, dès 73. Mon Dieu.
Tout ceci ne nous rajeunit pas. Ça va la petite santé, monsieur?
Et donc, au niveau de la science-fiction canadienne, l'expression française, pour reprendre l'expression consacrée, tu es, l'idole tutélaire, le...
Je suis la mémé de la science-fiction québécoise. Je fais partie de la première génération d'auteurs de la science-fiction québécoise.
Mais tu ne te contentes pas, je dirais, d'être la figure tutélaire qu'on pose sur une étagère. Tu as un rôle extrêmement actif.
J'ai eu la chance, que je n'aurais jamais eu en France, de participer à l'accouchement, à la naissance de la science-fiction québécoise. Et ça, c'est une expérience qui ne cesse pas de me remplir de joie, parce qu'elle continue, à chaque, à peu près, 5 ou 6 ans, il y a la nouvelle relève qui arrive, et je me dis, quand même, j'aurais participé à ça. Et c'est quelque chose que personne en France, je pense que la première génération des gens qui ont fait naître la science-fiction française commence... ou bien à être en train de manger les pâquerettes ou bien s'apprête. Donc personne ne sait plus c'est quoi cette expérience-là, de faire naître un mouvement littéraire. Waouh, c'est bien.
Et si je peux donner une petite anecdote dont tu te rappelleras, pour vous indiquer le rôle de passeur qu'a pu jouer Elisabeth. J'ai eu la chance d'être invité à un festival que tu avais organisé, un festival boréal, je crois.
Oui,
que
j'ai organisé des congrès de science-fiction.
En 1990, je crois.
Il y en avait un, le premier c'était en 79, le deuxième en 82, le troisième en...
En 89. Et donc en 1989, dans la maison d'Elisabeth, elle me présente deux petits jeunes rougissants et timides, et elle me dit, ces deux-là, jette-y un coup d'œil parce que, à mon avis, ils sont bons. Et 20 ans plus tard, littéralement, je les ai publiés chez Brajlon. Il s'agissait de Yves Ménard et de Jean-Louis Trudel, qui, depuis chacun de leur côté, ont fait une carrière assez soufflante. Et à cette époque-là, je crois qu'ils en étaient vraiment à leur premier texte, pratiquement.
Ah oui, ouais. Yves avait 18 ans et je pense que machin aussi, Jean-Louis aussi.
Oui, c'était vraiment les deux petits jeunes, et Elisabeth me les pointe en disant ces deux-là. Et moi, en tant qu'éditeur, littéralement 30 ans plus tard, je me retrouve à publier.
Mais je suis très fière de mon travail de studie-passeuse ou d'accoucheuse ou whatever, parce que je vois arriver à la publication des gens que j'ai vu passer dans mes ateliers d'écriture ou que j'ai vu passer en tant que directrice littéraire dans la revue Solaris. Oh, j'aime trop cette sonnerie de téléphone. Sonnerie mourante. Donc c'est ça, je suis très fière de ça. C'est une de mes fiertés. On n'en a pas beaucoup dans la vie, raison d'être fière, mais là j'en ai une.
Et en même temps, tu as abordé à travers tes livres, d'abord, deux grands cycles romanesques qui s'étendent sur plusieurs volumes, accompagnés de petites nouvelles, quelquefois très courtes.
Le très court, ça m'a pris longtemps. Je ne sais plus, il faudrait qu'on retrouve qui est-ce qui a dit « Je peux faire plus court, mais ça prendra plus longtemps. » Parce que, comme disait Yves, justement,
Yves Ménard,
dont on parlait
remarquable
nouvelliste, pendant très longtemps, c'est considéré comme uniquement un nouvelliste, et nous discutions, il me disait « Mais toi, tu es une fabricante de cathédrales. Il y a les gens qui font des cathédrales, et puis il y a les gens qui fabriquent la petite maison dans la prairie. Moi, je fabrique la petite maison dans la prairie. » Ça ne l'a pas empêché d'être en train de publier une trilogie chez Thor aux États-Unis, mais bon. Et effectivement, il y a des gens dont l'imaginaire a beaucoup de tiroirs. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas capables de faire autre chose que des nouvelles, parce que leur esprit, leur façon de fonctionner, leur imaginaire, comporte un certain nombre de tiroirs bien précis, et ils sont très à l'aise dans ces tiroirs-là, mais ils n'arriveront pas à tirer d'autres tiroirs que ça. Et puis il y a des gens qui ont un esprit vraiment confus et trop plein, et c'est le cas des gens comme moi qui écrivent des séries... Parce qu'on aime raconter des histoires, parce qu'on aime créer des univers, des mondes. La première série que j'ai écrite, je l'ai imaginée à 16 ans. Je l'ai écrite et réécrite pratiquement à la main pendant 10 ans. Et j'ai appris à écrire avec. Et c'est un monde où j'ai vécu pendant jusqu'à l'âge de 50 ans, et même encore maintenant. Et tout de suite, c'était une gigantesque histoire. C'était un truc grandiose. Mais c'était une petite histoire. Et c'est une des raisons pour laquelle le premier volume est fait de petites histoires qui sont organisées de façon chronologique, mais dont chaque fois le personnage est différent, l'époque est différente et le lieu est différent. Parce que j'avais vu ça comme une espèce de panorama avec des volets. Bon, j'ai rajouté une histoire 4, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer des histoires courtes. Ben, ça m'a pris 30, 40 ans. Ça m'a pris 40 ans. Pour apprendre à faire des histoires courtes. Alors là, maintenant, je vais publier un recueil cet automne qui ne seront pas des nouvelles de genre, vraiment. Il y en a, mais qui sont très courtes. Ça va de une demi-page à, un maximum effrayant de 3 pages. Et franchement, ça m'a pris 40 ans. Il y a des nouvelles là-dedans qui datent d'il y a 20 ans.
Oui, mais tu as quand même publié, je suis bien placé pour le savoir, un recueil qui était Janus,
oui.
Qui était dans les
années
80.
Des nouvelles normales, de 25 à 30, 40 pages.
Oui, mais ce sont des choses justement courtes, et sur lequel...
Moi, je ne les considère pas comme courtes. On m'a toujours accusé de faire des romans courts, quand je faisais des nouvelles. C'est pas des nouvelles, c'est des romans. Sur les sujets de nouvelles, on peut faire des romans avec. Ben oui, ben moi, là, c'est curieux, d'ailleurs. Parce que les histoires avec lesquelles je fais des nouvelles, ils ne me viendraient pas à l'esprit d'en faire des romans, alors que j'ai des collègues qui me disent « Mais moi, je te fais un roman de 350 pages avec ces sujets-là. » Pas moi. Alors là, je ne sais plus.
Dans le cas particulier de Janus, pour une ou deux d'entre elles, on peut comprendre, de la même façon que tu peux prendre tes histoires de pont, parce que tu as quand même aussi un cycle de nouvelles avec un certain nombre de...
Oui, j'ai des univers auxquels je reviens...
Auxquels tu reviens.
De préférence, oui.
Il est parfaitement possible de faire un roman en prenant deux, trois nouvelles du cycle du pont.
Mais ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, j'ai réutilisé des morceaux de ces nouvelles-là dans... Ah tiens, le livre que je n'ai pas apporté, Les voyageurs malgré eux, où j'ai réutilisé, qui fonctionne sur le motif du pont, et où il y a des morceaux de ces nouvelles-là. Mais ce ne sont pas les personnages de ces nouvelles-là.
Est-ce qu'à ce moment-là, le choix d'un texte court, c'est le choix... le choix du temps que tu as envie de vivre avec un personnage, plus que la dimension presque de l'histoire autour. Est-ce que c'est je décide de passer 10 minutes avec cette personne, à la différence de je décide de vivre avec lui la moitié de ma vie?
C'est ça, je pense que c'est ça. J'ai envie de vivre dans cet univers-là pendant 2800 pages, ou enfin 350 pages, c'est effrayant pour votre vie. Ou bien je sens que ce soit une liaison extrêmement courte. Parce que nous avons ceci à nous dire, et c'est tout. Il y a des histoires que j'ai envie d'écrire avec des personnages avec lesquels j'ai envie de vivre, jusqu'au moment où ils arrivent au moment révélateur pour moi, et ça peut être très bref. Tiens, je vous en lire un petit bout. Un moment révélateur.
Absolument. Okay.
Alors c'est une nouvelle qui s'appelle La maison au bord de la mer et qui est la nouvelle éponyme du recueil, donc du même. où vous avez une civilisation future, enfin non, la Terre future qui commence à se dégrader pas mal, une ville construite sur une falaise artificielle, et des artistes qui ont commencé à créer des artefacts qui sont des statues vivantes. Et finalement, on finit par se rendre compte que ces statues vivantes sont exactement des êtres humains, conscients, mais fabriqués. Et il s'agit de leur libération, il s'agit... Mais c'est une libération qui n'est pas collective, ça se fait petit à petit, personne par personne. Ce n'est pas du tout un grand roman révolutionnaire. Et il y a une de ces artefacts qui ne savait pas qu'elle en était une, qu'il a découvert dans des circonstances traumatisantes, et qui est sa mère, ou du moins sa créatrice, pour ne pas le lui avoir dit. Mais à un moment donné, elle retourne voir sa mère. Et sa mère lui apprend qu'elle l'a tellement bien faite qu'elle est capable d'avoir des enfants, ce qui est découvert pour le lecteur, c'est la dernière nouvelle du recueil. Et sa mère est vieille. Sa mère est vieille, alors qu'elle, elle ne vieillit pas. Et ça finit comme ceci. Comme toujours, lorsque le soleil perce enfin les nuages, il fait vite chaud. Dans le mouvement que je fais pour enlever ma veste, je la vois, qui me regarde. Elle m'arrive à peine à l'épaule. Il doit y avoir longtemps qu'elle n'est pas allée au soleil. Elle est si pâle. Je cherche au loin quelque chose d'autre à regarder. À quelques encablures de la plage, il m'a semblé voir des formes qui sautent dans les vagues. Des marsouins, des nageurs, un bras au-dessus de l'eau comme un cygne. Elle met une main en visière devant ses yeux. Non, ce sont les sirènes de Permanent. Enfin, je les appelle sirènes. Elles reviennent ici depuis quelques saisons, je ne sais pas pourquoi. Elles ne parlent pas, elles sont très timides. Et devant mon silence stupéfait, elle remarque avec acidité « Quoi, tu as quelque chose contre les humanoïdes ?»« Non, bien sûr que non, mais elle repousse mes questions, mes mains écartées devant elle. Je chercherai tout ce qu'il y a là-dessus au labo, tu pourras voir ça si jamais tu reviens. » Le nuage semble passer sur elle rapide, qu'il éteint à nouveau. « Je suis fatiguée, ma fille. Le soleil ne me réussit plus. Je vais m'étendre un peu. » Et elle s'en va comme ça, sans un mot de plus, sans un geste, toute petite, près du champ un peu dans le sable. Et je veux la regarder partir, et je ne veux pas la regarder partir, comme si c'était la dernière fois. Parce que c'est peut-être la dernière fois, et le « ma fille » s'est fiché quelque part dans ma poitrine. Il croit, il me déloge, et la pression devient tellement forte que j'enlève mes habits, que je plonge dans l'eau verte et tiède pour nager en direction des créatures marines. Le premier élan d'énergie épuisé, je me retourne sur le dos. Je regarde vers la maison. La petite silhouette s'est arrêtée sur la terrasse. J'agite un bras, je crie. Je reviendrai, maman. Je ris, et mes larmes se confondent avec la mer. Et c'était là que je voulais arriver, cette histoire. Et ça ne pouvait pas faire un roman.
Par contre, tu as écrit un certain nombre de romans. Alors là, cette fois, tu as pris l'amplitude du roman, parce que tu as joué, je dirais, avec les fondements de la société, avec les paramètres de la société. Et ça, c'est quand même une tentation à la fois sociale et sociétale, mais aussi un petit peu démiurgique, de remettre en cause un certain nombre des présupposés des civilisations qui nous entouraient et que tu as vécu à ce moment-là, en particulier tous les présupposés patriarcaux, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, etc. Et c'était à un moment donné une possibilité pour toi d'utiliser la science-fiction pour faire bouger les lignes, parce que c'est à ça que ça sert.
Oui, je déteste les boîtes. Les boîtes doivent être biodégradables ou sinon j'en veux pas. Alors bon, nous sommes tous dans des boîtes. Je suis dans ma boîte de femme, tu es dans ta boîte d'homme, bon, et nous, on est... La science-fiction nous permet de faire jouer les boîtes et de les rendre biodégradables, c'est génial. On parlait tout à l'heure de l'extraterrestre, on parlait de la question de c'est quoi être humain. Et effectivement, la question de c'est quoi être humain peut être subdivisée. Hein. C'est quoi être une femme? C'est quoi être un homme? Et j'ai pas de réponse. Ça fait depuis quoi, les années 70 que je suis une féministe convaincue. Ça m'a pris un moment quand même, j'avais déjà 26 ou 27 ans à ce moment-là, quand je suis tombée féministe. Mais j'ai toujours pas de réponse. Et pour moi, le féminisme est un ensemble de questions et pas de réponses. Et la science-fiction se délectant des réponses, puisque des questions, puisque le moteur essentiel de la science-fiction, c'est « et si c'était autrement ?» Mais mon Dieu, mais c'est une question d'une force absolument explosive, ce truc-là. C'est incroyable. Si c'était autrement. On m'a répété pendant toute mon enfance et mon adolescence sans jamais me le dire. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça. Eh bien, non. La science-fiction m'a fait découvrir que ça a peut-être été comme ça, faudrait peut-être aller voir. C'est peut-être comme ça, mais on n'est pas sûr de vraiment comprendre comment ça marche. Mais il y a une chose qui est certaine, ça sera pas toujours comme ça. Alors, évidemment, si ça s'accorde toujours comme ça et qu'on commence à raconter l'histoire future, là on peut imaginer tout ce qui peut ne pas être comme ça, on ne peut pas une civilisation en entier, ou deux, ou trois, un empire galactique, ah non, les empires galactiques c'est pas mon truc, une planète ça me suffit, une planète et demie.
Et c'est justement qui est très très intéressant, et on l'a vu avec ta nouvelle, l'exemple que tu as cité, il y a un fil qui serpente dans beaucoup, beaucoup de tes textes, qui est celui de l'héritage, la transmission, la récupération de ce qui était avant. Et toi, tu es justement à la fois dans la description, et c'est surtout vrai pour les nouvelles, mais aussi pour les romans, de cet héritage, de là d'où je viens, de ce que l'on m'a donné pour que je commence mon voyage, avec le fait de dire, de toute façon, qu'est-ce que je pourrais bien en faire, puisque ça va changer quand je commencerai à m'en servir.
Ah, mais oui, mais non. Oui, mais non.
Ben oui.
C'est pas par hasard que je me suis... Enfin, j'ai tendance à ne pas penser qu'il y a de hasard quand je me dis que je me suis retrouvée et j'ai voulu rester au Québec, dont la devise est « je me souviens ». Ce qui est pour le moins paradoxal pour une auteure de science-fiction. Mais on ne peut pas envisager le futur si on ne sait pas d'où on vient. Le temps est un ensemble. Le temps est un tout. On vient de quelque part, et on vient de quelque part pour s'en aller quelque part. On ne naît pas tout armé de la cuisse de Jupiter. Il y a des héritages. Moi, j'ai fui les héritages français. Il y en avait trop. Le Québec, il y a 400 ans d'histoire, là, c'est supportable. Mais... Et le problème de l'héritage, c'est évidemment le problème de la famille. Le problème des clans, des tribus, des nations... Et donc là, on peut passer de l'individuel au collectif constamment quand on parle d'héritage. Et par exemple, quand j'écris un roman de fantasy uchronique comme la Reine de mémoire, que vous avez là dans toute sa splendeur en format, mais qui existe aussi en format poche, et on peut se le procurer sur Amazon, et bien c'est toute une histoire de famille, c'est une histoire d'héritage, et les mensonges, et les supercheries, et les conséquences des actes sur les générations. J'ai toujours été très frappée, personnellement, dans l'expérience de ma famille, de voir comment les horreurs se transmettaient d'une génération à l'autre. Je n'ai pas d'enfant. Et chaque fois que je me dis « j'ai pas d'enfant », je me dis « mais zut, c'est plate ». Quand je pense à toutes ces générations de femmes qui ont réussi à survivre pour que je sois là, c'est vraiment pas juste. Et d'un autre côté, je me dis « oui, mais quand je pense à toutes les horreurs ». Et celles que je ne connais pas, qui se sont transmises de famille en famille, peut-être bien que ça s'arrête à un moment donné. Mais, dans mes histoires, ça ne peut pas s'arrêter de cette façon-là. Ça ne peut pas s'arrêter, je meurs, ça s'arrête. C'est correct pour moi, mais dans mes histoires, on a envie que ça continue. Alors j'écris des histoires, j'ai écrit Reine de mémoire, et ça s'appelle Reine de mémoire, pour raconter comment... La mémoire revient, parce que c'est un des motifs de ce livre-là, c'est qu'on a kidnappé la mémoire d'une certaine façon. Il y a un pays qui n'existe pas. Il y a un pays qui n'existe plus parce qu'on l'a effacé magiquement des mémoires de tout le monde, mais on ne peut pas effacer la mémoire. Elle revient. C'est le retour du refoulé. Et c'est non seulement la mémoire de l'Occident, mais c'est aussi la mémoire des pays qui ont été colonisés par l'Occident et que... L'Occident a essayé d'écraser, en fait, de détruire. Et cette mémoire-là, on ne peut pas la détruire. Elle est indestructible. Et je l'ai en quelque sorte concrétisée dans des dragons. Alors, c'est de la fantaisie avec des dragons. Oui, il y a des dragons, il y a de la magie. Mais c'est aussi une uchronie, c'est-à-dire que ça peut se lire comme de la science-fiction. Et ces dragons sont la mémoire du peuple auquel appartiennent les personnages, soit directement, soit comme des sang-mêlés. Et ils ont une durabilité telle qu'on ne peut pas les détruire. Et le fait qu'ils soient durables, par exemple, il y en a un qui est le dragon de la montagne. C'est la pierre, c'est... Et je voudrais vous lire un petit bout où le personnage, un des personnages principaux...
Je soutiens.
Non, c'est beau.
Fait une rencontre. Il est presque 5 heures et le soleil a beaucoup baissé, baignant la face rocheuse de la montagne, d'un rose orangé si profond qu'à l'instant où Raïn s'amuse à l'imaginer faire entièrement dans leur site, comme si c'était l'œuf du dragon de feu, mais en beaucoup, beaucoup plus gros, et que la chute d'eau était la fente par laquelle naissent les matessines. Ces créatures étant des créatures magiques. Mais la fantaisie ne peut durer. La lumière rasante accentue trop les accidents de la roche, conférant aussi à la chute écumeuse un relief presque irréel. À son pied, après la zone de remue turbulente, L'eau se précipite entre les rochers arrondis, veinés de rouille. Il doit y avoir du fer par ici. Formant ça et là des petits étangs, de grandes flaques plus calmes, ourlées de sable ou de galets multicolores. Ouraïn ôte ses sandales et s'avance dans l'une d'elles, écartant avec délice les doigts de pied dans la fraîcheur un peu visqueuse des gravillons. Puis, gravement, elle prend de l'eau dans ses mains en coupe et en verse des trois côtés de l'horizon, en murmurant le nom des divinités de la montagne, Yunxaigao, Yundigao, Yuntan. Après s'être accroupie, elle en boit trois gorgées, en laissant la fraîcheur couler dans sa poitrine. Et devant elle, l'épaule de roc devient soudain une épaule à laquelle est rattaché un long cou, auquel est rattachée une longue tête. Les petits rochers en avant sont devenus des pattes griffues étirées avec nonchalance, et elle, au milieu. Lichen et mousse sont autant des cales vertes picotées de jaune qui s'affirment plus lisses et plus vernies, tandis qu'Oraïn, la tête renversée en arrière, contemple la créature qui naît de la montagne, qui est la montagne elle-même, pourvue d'elle, dont les membranes repliées imitent des nappes de basalte. Le cou se tord en un arc élégant. La tête au mufle camus s'abaisse pour s'arrêter au niveau des yeux d'Oraïn. Lorsque la gueule s'ouvre, découvrant des dents de cristal acérées, un souffle igné lui caresse le visage. Immobile, elle contemple les yeux énormes à la pupille verticale qui la fixe, immobile. Elle peut se voir minuscule dans l'iris doré. L'aigrette, étrangement plumeuse des sourcils, fait écho aux vibrisses qui s'épanouissent de part et d'autre du museau, aux naseaux largement ouverts. Sans savoir pourquoi, elle songe à Chenzin, le chat au tout petit pavillon, lorsqu'il est assis en face d'elle au moment où elle se laisse glisser dans la transe. Bienvenue, Oraïn, dit la voix immense et pourtant silencieuse de Yunpen. Tu brilles trop fort, petite phénix. Danse, je me souviendrai de toi. Le dragon de la montagne cligne des paupières. Une fois, et elle n'est plus là pour rien voir. Alors effectivement, la mémoire, c'est paradoxalement le grand thème pour rien. Avec la métamorphose. Il faut les deux.
La mémoire et la métamorphose, mais aussi, je dirais, les processus de transmission. C'est une chose qui est passée du stade de d'où je viens, ce que je sais, mon bagage, à comment, à un moment donné, vais-je trouver le moyen de le transmettre. Et justement, Reine de Mémoire est un excellent exemple de ce côté-là, parce que c'est un endroit dans lequel tu syncrétises un certain nombre d'héritages, y compris d'ailleurs un héritage de nature asiatique, un héritage qui tient compte du fait que tu as été élevé dans une civilisation, que tu as vécu dans une autre, et que tu t'es retrouvé au carrefour du troisième à un certain moment donné. Et à un moment donné, se pose la question, et elle se pose aussi dans la manière dont tu écris des histoires, dont tu réfléchis à ce qu'est écrire des histoires, qui est comment est-ce que tout ce fatra, je le déverse d'une façon qui soit à la fois intelligible, utile, et qui, je dirais, qui me reflète un peu. Ouais. Et donc, c'est pas seulement dans la mémoire, tu es passé dans la dynamique de la transmission.
Oui, la dynamique de la transmission, pour moi, ça passe essentiellement, je pense, par des questions.
Ah oui, tu n'es pas le genre à fournir des réponses.
Non, je suis pas le genre. Non, parce que des réponses dans la vie, j'en ai pas beaucoup. Et j'ai vécu assez longtemps maintenant pour savoir qu'elles sont toutes pratiquement biodégradables. Il n'y a pas beaucoup de réponses qui sont restées avec moi. Je pourrais dire que j'ai trouvé toutes mes vraies réponses entre 15 et 17 ans. Ok, on agit dans la vie, on fait des choix, on en prend la responsabilité. Et on vit avec. Et c'est à peu près la seule réponse que j'ai. Toutes les autres, c'est comment on fait les choix ? J'en sais rien. Ben, il y a des fois que, puis il y a des fois que, puis il y a des autres fois. Bon, comment on survit à la responsabilité ? Ben, des fois, il y a toujours des possibilités différentes. Et j'aime la science-fiction pour ça, c'est parce que c'est le monde des possibles. Et on peut tous les explorer, et on n'a pas besoin de se tenir à impossible. On change de livre, on change d'histoire, on en fait une autre, et là on en explore un autre. Ce qu'on ne peut pas vraiment faire dans la vie. Quand on a de la chance, on a plusieurs existences dans la même vie. Bon, comme tu disais, j'ai fait de la chanson, j'ai changé de continent, je suis directrice littéraire, j'ai plusieurs espèces de vie parallèles d'une certaine façon. Mais la majorité des gens auront l'expérience d'une vie avec de la chance. Et poser des questions, ça me permet d'explorer les vies parallèles, les possibles parallèles. Et ça me permet aussi d'établir, du point de vue de l'écriture, d'établir des chaînes, questions-réponses qui me permettent de faire circuler mes personnages dans leur propre histoire, en fait.
Mais tu sais, dans le débat qu'on vient d'avoir là sur l'extraterrestre, je pensais à une discussion que j'avais eue avec Mike Resnick, où tu as des gens, des auteurs qui se disent Je ne peux pas me contenter d'être moi, il faut que je sois tous les autres, ceux que je suis. Et toi, j'aurais tendance à dire que tu ne peux pas te contenter d'être toi, tu es aussi toute celle que tu aurais pu être si quelque chose avait changé dans ta trajectoire, tout en demeurant quand même suffisamment proche de toi pour que ça ait du sens.
C'est ça, c'est l'expérience que j'ai eue. J'aurais pu pas venir au Québec. J'aurais pu rester en France. J'étais titulaire de mon poste, dans un endroit qui n'était pas trop éloigné de l'endroit où vivait la famille de mon mari à l'époque, etc., etc. J'étais titulaire de mon poste. J'aurais été prof, je serais morte. J'ai été prof pendant un an, à temps plein, au secondaire. Ça s'est très bien passé avec les élèves, l'administration évidemment c'est autre chose, mais bon, on m'en fout, j'étais agrégée, on ne pouvait pas me toucher. Et au bout de l'année, je n'avais rien écrit, et j'étais en dépression nerveuse, parce que je n'avais rien écrit. Et là j'ai compris, c'est l'enseignement ou c'est l'écriture? Parce que l'enseignement, il fallait tout donner pour que ça me satisfasse, et bien l'écriture, il n'y avait plus rien pour. Alors l'écriture, je me suis rendu compte que ce dont j'avais besoin pour respirer, c'était le rapport avec les mots. Alors là, on est parti au Québec. Yay! J'ai survécu. Bon, là j'ai pu écrire. J'aurais pu ne jamais t'oublier. Je ne t'aurais jamais rencontré, je ne
t'oublie. Surtout, moi j'aurais peut-être probablement pas continué à écrire non plus, parce que je dois quand même dire, permettez-moi de rendre un hommage à Elisabeth, mais Elisabeth est véritablement quelqu'un qui m'a formé et vis-à-vis de qui j'ai eu énormément de discussions. En particulier, c'est curieux, sur le domaine de la nouvelle. Et...
Je me remets là parce que...
Mais pour vous dire, je l'ai vous voyé pendant longtemps.
Chère madame.
Oui, et alors, elle, à chaque fois, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de...
Chaque fois, je me bidonnais.
Et puis, elle me dit, mais non, comment tu arrives pas? On s'est changé des longues lettres que j'ai encore. Et je me disais, mais c'est quand même fantastique. Moi, j'écris des petites merdes dans mon coin et j'ai quelqu'un là qui fait des bouquins extraordinaires.
Il avait publié Autoportrait, des petites merdes.
Ouais, mais franchement, et puis elle est arrivée avec son recueil Janus et je me disais, mais... cette personne me parle, ça faisait vraiment bizarre. Et elle m'a accompagné non pas au sens en me pointant du doigt en disant tu vois là il faut pas faire ça, mais en me disant est-ce que tu t'es posé telle question. Et le est-ce que tu t'es posé telle question, oui absolument. Et je peux le prouver, j'ai des lettres. D'accord. Et le est-ce que tu t'es posé telle question, qui au passage est, je dirais, l'ossature même de ton livre Comment écrire des histoires, c'est-à-dire à la base, d'abord une histoire c'est quoi? Et puis, je dirais, est-ce que vous avez pensé à ça, à tels et tels aspects? Est-ce que vous vous demandez si ça ne fonctionnerait pas autrement aussi, peut-être même mieux, ou en tout cas différemment, ça mérite d'être regardé. Toutes ces questions-là, on les reçoit de quelqu'un d'autre et on les fait sien. C'est-à-dire qu'au moment donné où la question que vous est posée, elle est lumineuse, mais tant qu'on ne vous l'a pas posée, ben vous ne l'avez pas encore cette question, parce que vous n'osez pas. Et ça a été le travail que tu as fait vis-à-vis de moi, et ça a été assez étonnant. Et je le retrouve très curieusement dans tes derniers livres. Moi, de ce côté-là, Reine de mémoire a été fascinant, parce que c'est véritablement comment quel est l'essentiel que je peux transmettre sans que, comme tu dis, ça soit biodégradable. Et c'est une attitude, c'est un mouvement, c'est une danse, et c'est des personnages qui ont la bougeotte. Et ça, ça n'a rien de particulièrement étonnant, mais si tu réfléchis, quand tu compares par exemple avec les chroniques du Pays des Mers, pour ne citer que ça, tes personnages là, dans le Reine de mémoire, ils bougent beaucoup. Et puis ils bougent beaucoup au sens où ils vont de l'autre côté du monde, voir la civilisation, voir les endroits dont on ne se souvient plus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est véritablement le sentiment de me dire, ok, la seule chose que je peux dire, c'est allez-y, voir en pensant. Est-ce que c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est que... Bon, moi j'ai été déplacée, j'ai été une petite fille très déplacée, enfin trop déplacée visiblement, il y en a qui ont été bien plus déplacés que moi, les enfants de militaires par exemple qui sont tout le temps arrachés. Mais moi les quelques petits minuscules arrachements que j'ai vécu, c'était déjà trop. Mais j'ai toujours senti quelque part que c'était eux qui m'avaient formée. Parce que justement chaque fois il fallait changer. Et l'expérience du changement est essentielle. Et donc le voyage, la bougeotte... Se déplacer, même être forcé, parce qu'ils ne veulent pas vraiment se déplacer. Dans la mémoire, ils ne veulent pas vraiment se déplacer, ils sont forcés. Ils s'enfuient, ou ils ne peuvent plus rester là où ils sont, et on les oblige à revenir, à repartir. Alors,
bon, on les envoie en mission.
Oui, on les envoie en mission. Enfin, c'est vraiment pas. Ce ne sont pas des voyageurs heureux, d'ailleurs. Pas pour rien que j'ai un roman qui s'appelle Les voyageurs malgré eux. Bon, moi, ce que j'aime, c'est revenir. Mais pour revenir, il faut être parti. Alors, problème. Et eux aussi, ils reviennent là où on ne peut pas revenir. On ne peut pas revenir là d'où on est parti, bien entendu. Hein? vous avez changé et quelquefois la place d'où vous êtes parti a changé aussi. Donc on ne peut jamais revenir. Et pourtant j'essaie toujours de revenir. J'écris tout le temps. J'écris tout le temps parce que, j'écris pas tout le temps autant que je voudrais, mais je désire toujours écrire parce que pour moi écrire c'est revenir. Quelque part dans une espèce de bulle de temps et d'espace parallèle où je peux donner du sens à mon existence. Bon, voilà, c'est vachement philosophique. Wow, la science-fiction est loin. Mais pourquoi pas, sapristi ? On n'est pas obligé de faire la littérature blanche pour chercher le sens de l'univers et du reste. Bon,
Mais c'est pas seulement, je dirais, chercher le sens de l'univers et du reste, c'est aussi utiliser cette espèce de merveilleux laboratoire d'expérience que sont l'ensemble des vies possibles. Et l'ensemble de tes vies possibles couvre pratiquement, je dirais, l'expérience de l'humanité. Tu es vaste, tu contiens des
Je suis vaste, je suis légion, je contiens des multitudes. Je ne me vois pas avec une lentille si grossissante que ça, mais enfin bon, oui. En fait, mes personnages qui se travaillent dans des univers parallèles, puisque c'est un de mes motifs préférés, justement, parce que dans ces univers parallèles, ils se rencontrent ou ils ne se rencontrent pas. Mais au moins, on explore des autres possibles d'eux-mêmes. Et c'est le miroir qui ne me renvoie pas mon image, même si c'est moi en face. Là, c'est pas mal tourneboulant quand même. Hey, c'est moi, je me regarde dans le miroir et c'est pas moi. Wesh. Ça pourrait être une expérience fantastique, horrible et totalement. Je deviens fou, j'explose. Mais mes personnages n'explosent pas parce que j'aime l'autre. J'ai mis beaucoup de temps à accepter. À trouver qui était l'autre et comment l'autre pouvait exister, et à toucher l'autre, et à l'admettre dans son ça y est, je vais dire altérité moi aussi, sapristi, dans son fait d'être autre. Je commence à détester cette altérité, on met à toutes les sauces, sapristi, ça ne recouvre plus rien.
Mais dans ce cas particulier,
dans ce cas particulier, ça a un sens vraiment, vraiment spécifique. Et j'aime bien que mes personnages se rencontrent et se disent « Ouais, ça me ressemble, mais c'est pas moi ». Et donc, puisque c'est pas moi, je ne peux pas l'assimiler, le prendre, le digérer. Il faut que je le laisse être à distance de moi et être soi. Parce que le problème de l'autre, c'est bien joli, c'est que quand on rencontre l'autre absolu, est-ce que vous pensez qu'on le reconnaîtrait ? Non, parce que rencontrer l'autre, c'est rencontrer ce qu'il y a de semblable à soi. Et alors, on est d'abord hypnotisé par les ressemblances, ou on peut être hypnotisé par les différences. Et l'autre devient le non-moi, le non-humain. Mais en réalité, il faut faire la synthèse de ces deux. Rester tout le temps en équilibre entre ça me ressemble, mais ça n'est pas moi. Ça me ressemble, mais ça n'est pas moi. Et c'est très difficile. Parce qu'on a toujours tendance à récupérer l'autre, à l'assimiler. Oh oui, non, oui, j'ai ressenti la même chose que vous. Non. Non. J'ai perdu ma mère, vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre mère, je comprends tellement votre tête. Non. C'était ma mère, c'était votre mère. On utilise le même mot, mais ce n'était pas la même personne. On a ces fameux tiroirs qu'on a dans la tête, il y a les mêmes mots dedans, mais ils ne recouvrent pas les mêmes expériences de vie. Et donc, le rapport à l'autre est quelque chose d'infiniment plus complexe et délicat qu'on veut bien penser. Et je trouve que, d'une certaine façon, l'extraterrestre, dont je me suis écartée comme thème, pour aller trouver le thème du double, l'extraterrestre est une espèce de solution de facilité, parce qu'il est tellement évidemment autre. Alors, il suscite des réactions plus extrêmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre qui me ressemble, mais qui n'est pas moi.
C'est tous les personnages du pont, effectivement, qui se retrouvent, qui sautent dans des mondes alternatifs où ils sont déjà présents, mais en ayant en gros vécu différemment ou pris un embranchement à un moment donné qui l'a mené. Et tu sais, il y a dans un des livres de Pratchett, je crois que c'est Trois sorcières, où il y a Mémé Sire du Temps qui, à un moment donné, avec une...
Non, c'est parce que je ne l'ai jamais lu en français.
Oui, mais qui donc, Mémissaire du Temps, qui est la vieille sorcière raciste et à la fois pleine de bon sens et pleine d'aspérité, si je puis dire. D'ailleurs, il y a une nouvelle dans laquelle Pratchett lui consacre un légume, en fait, on colle un oignon, ce qui lui ressemble très bien. Et donc, elle se retrouve avec... À un moment donné, une mauvaise sorcière prisonnier dans une espèce de labyrinthe de miroirs. Et les reflets s'adressent à la mauvaise sorcière en lui disant « Laquelle d'entre nous es-tu ?» Et la sorcière pète complètement les plombs et s'enfuit dans le labyrinthe, poursuivie par ses propres reflets en disant « Mais es-tu moi ? Es-tu moi ?» etc. Et on pose la même question à Mémé Sire du Temps qui dit « Moi ?» Et puis qu'il saute, tout explose et elle retombe en disant « Oui, voilà. » Et alors, « Laquelle es-tu ? »
Laquelle suis-je ? J'ai envie de dire que je n'en sais rien.
Mais oui. On aimerait bien être aimé, si c'est sur du temps, mais c'est pas sûr.
Écoute, tu écriras mon éloge funèbre. Et là, tu me diras qui je suis.
L'un de nous deux, s'il est capable de s'en rappeler, écrira l'éloge funèbre de maître.
À ce stade-là. Non, et finalement, je me suis. Le problème, c'est chaque fois que je me dis, ah ben tiens, je suis cette personne-là, puis là, je fais quelque chose, ou je dis quelque chose, ou je ressens quelque chose qui me fait dire, ah ben finalement, peut-être pas.
Bon, on a tous des attracteurs étranges. Hein. On est quand même une espèce de personnalité, répandue.
Comment est-ce qu'on dit ?
Distribuée ?
Distribuée. On est une personnalité distribuée, en fait. On a un certain nombre de points auxquels on revient. Et ça, c'est pas nouveau, c'est tonton Diderot qui l'avait dit. Je me rappelle plus la citation, c'était l'année de mon agrès, je savais toutes les citations par cœur. Ça j'ai oublié. Il disait que je suis celui auquel je reviens le plus souvent. Bon, ben, y a effectivement une moi à laquelle je reviens le plus souvent, d'accord. Mais il y en a plein d'autres, y compris les perverses, les sournoises, les salopes. Heureusement.
Tu vois, avec des ailes en blanc, avec un halo.
Non. Alors c'est ça, je sais pas qui je suis, je sais à qui je reviens le plus souvent. Je suis un être de mots, je suis un être de mémoire, et je suis une rêveuse. Voilà, ça, oui, puis j'aime faire des gâteaux, et les manger.
Oui, nous avions eu cette grande discussion où tu m'expliquais que pour toi en particulier, commencer à écrire une nouvelle, c'était dans ta tête rassembler tous les ingrédients de la pâte.
J'ai écrit un texte entier où quelqu'un, enfin c'est une nouvelle courte dans un recueil de textes brefs qui s'appelle Vraies histoires fausses, et qu'à un moment donné, il faudra que je l'amène ici, où quelqu'un décide de faire un repas entre amis, et elle commence, et c'est exactement le processus que je suis quand j'écris une histoire. Et le dernier mot de ce texte, c'est son histoire. Parce que le repas est organisé comme une histoire. Il y a un thème, il y a des personnages. Je l'ai invité, lui, ah oui, il va bien avec elle. Ah, il y a peut-être quelque chose qui peut se développer entre eux. Ah, puis alors les ingrédients, puis les souvenirs qui embarquent. Ah, ben oui, maman, quand. Ah, elle faisait ci, elle faisait ça. Et oui, puis alors je peux faire comme ça. Et ensuite, alors il y a un thème, il y a l'ouverture, il y a le développement. Et alors la conclusion, absolument, absolument nécessaire, la conclusion. Tout le monde comprendra que c'était comme ça que ça définit. C'est ça. Un repas et une histoire, pour moi, c'est la même chose.
Mais tu reviens vers la personne qui prépare le repas et pas nécessairement la personne qui le mange.
Non, non, je suis d'abord la personne qui prépare le repas, mais je suis aussi la personne qui le mange. J'écris, ben j'ai longtemps dit que je n'écrivais que pour moi. Je me rends compte à mieux ce que je dis que c'est de moins en moins vrai, parce que j'ai quand même quelques lecteurs, quand même. Mais je relis mes livres. De temps en temps. Ah, il se trouve que là, j'ai relu Tyrannel.
Tu verras, ils sont bons, hein, c'est bon.
Ben, ouais, non, je trouve que c'est vraiment pas mal. Tyrannel est vraiment pas mal. Surtout relu depuis du cinquième au premier à l'envers, c'est vraiment quelque chose. Mais je relis mes livres parce que mes livres sont moi. Je ne vais pas prétendre que c'est autre chose. Je n'écris pas ta vie, j'écris la mienne, j'écris avec la mienne. Donc, je suis la première lectrice. Et d'une certaine façon, je suis la seule, non pas d'une certaine façon, d'une façon certaine, je suis la seule lectrice de mes histoires, de mes histoires. Le livre, l'histoire que les lecteurs vont lire, ce sera la leur. À partir du moment où le livre est terminé, il est lâché, il est fini, j'ai plus rien à faire là-dedans. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, vous comprenez, vous ne le comprenez pas. À la limite, j'ai envie de vous dire, c'est votre problème. Parce que j'ai l'impression que j'ai fait mon travail le plus honnêtement possible. Je suis allée au bout de ce que je pouvais faire au moment où j'ai écrit cette histoire-là. Pour moi, elle signifie ceci, elle est telle page dans le carnet de ma vie. Et pour moi, elle fonctionne, évidemment. Et à partir de là, bah, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes totalement libre. Et de l'acheter, et de ne pas l'acheter. Jeter, pas acheter. Vous pouvez la jeter au bout de 200 pages, on a marre, c'est trop long, il ne se passe rien, hop. Et moi, j'ai le droit de dire, je m'en fous. On parle toujours des droits du lecteur, hein, tonton Pénac. Ah ouais. On ne parle jamais des droits de l'auteur, ça me fatigue. L'auteur a le droit d'écrire des histoires longues et compliquées. L'auteur a le droit d'écrire des histoires qui ne finissent pas vraiment. L'auteur a le droit de dire au lecteur, ben c'est votre problème si vous comprenez. Enfin, ce genre de choses, les droits de l'auteur. Tu penses pas que l'auteur a les droits?
Moi, j'en suis profondément convaincu. La seule différence, c'est qu'on n'arrive pas à se réunir en syndicat pour le faire.
C'est ça.
Il y a aussi une particularité, donc en plus de ce travail de, comme tu dis, de mémoire et d'appropriation, tu ne peux pas t'empêcher, et c'est toujours cette qualité chez toi de ne jamais te contenter d'être une seule phase d'une pièce, tu ne peux pas t'empêcher de voir un fil qui dépasse dans la trame et de tirer dessus pour savoir un petit peu si ça se défait. Et tes personnages, et c'est une chose assez étonnante, et ton écriture elle-même interroge jusqu'aux certitudes de la narration elle-même. Il y a régulièrement des moments où tu décris ce que le personnage pense, et tout de suite, dès qu'il a atteint un niveau raisonnable de, je dirais, de certitude, il en vient lui-même à se dire « Ah oui, mais quand même, si. » Et je tire ce fil-là, et d'une certaine façon, je ne sais pas où ça me mène, mais je tire dessus quand même, rien que pour agrandir l'accro. Tu passes ton temps à agrandir les accros, en fait.
Tu en donnes une interprétation extrêmement flatteuse.
Ben, je suis là pour ça. Hein. Moi, je sers la soupe. Oui, hein. Oui, j'ai été payé par le festival pour faire ça bien. Ouais. On m'a mis des 5 euros. Là,
il y a eu un temps que j'avais beaucoup de mal à maîtriser ça. C'était le syndrome du oui, mais non. Et il y a des lecteurs qui m'ont fait remarquer, disons, ça commence à faire.
À faire procédé.
Oui, comme procédé, ça commence. C'était une espèce de réflexe. C'était ma pente qui descendait. C'était mon défaut. Je veux dire, mon défaut au sens de the default position. Et alors ça, c'est, comme je dis toujours, qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui n'écrit pas par défaut, mais par délibération, qui est conscient de ses effets. Là, moi, je le faisais parce que j'étais dans une période où c'était, je sais vraiment plus là. Oui, mais non. Alors non. À un moment donné, j'ai commencé à sortir de ce réflexe-là, ou du moins de me corriger ce réflexe-là. Et effectivement, là, c'est devenu ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, j'aime les trous. J'aime les ellipses, j'aime les accros, j'aime quand ça tient pas, j'aime parce que c'est là, c'est dans le déséquilibre, c'est dans l'instable. Quand tu parlais de danse, qui est le motif principal, finalement, de Reine de mémoire, la danse, c'est quoi? C'est un équilibre en mouvement. Si on s'arrête, on tombe. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine, sinon une course, toujours en équilibre instable entre tout un tas de choses qui nous tirent de tous les côtés. Et il faut, si on s'arrête, on est mort. On est mort pétrifié, ou on est mort parce qu'on tombe, mais on est toujours en train de tomber. Ah, la chute. C'est bien la chute. C'est intéressant, la chute, si on ne tombe pas complètement. Mais si on sent que, ah, là je pourrais tomber de haut, je me rattrape. Et en me rattrapant, tiens, j'ai appris un nouveau mouvement, j'ai appris une nouvelle façon de raconter une histoire, j'ai appris... C'est fascinant de fonctionner comme ça. Et effectivement, mes personnages étant moi, n'est-ce pas? Plus ou moins. Oui, si, je suis légère, on disait tout à l'heure. Ben, ils fonctionnent de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils ont toujours le réflexe d'interroger le réel. Moi, j'ai un problème avec le réel. C'est quoi le réel? C'est quoi ce machin-là? Je sais pas trop, moi. On m'a dit que le réel, c'est ça, c'est ça. Mais quand j'ai découvert la physique nucléaire et compagnie, ben, finalement, nous vivons dans des nuages d'électrons. Aïe, aïe. D'accord. Tu es un nuage d'électrons. Je suis chouette, je suis un nuage d'électrons, finalement. Ou de particules, ou de... Bon. Donc, j'ai un rapport au réel qui est extrêmement problématique. Alors, c'est pour ça qu'on m'accuse quelquefois de faire du Philippe Dick. Non, s'il vous plaît, il fait ça beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que mes personnages sont tout le temps en train d'interroger les certitudes. Et le réel, c'est un consensus. C'est un ensemble de certitudes acquises. C'est comme ça que ça se passe. Cette table est une table. Oui, mais si c'était pas une table?
On a presque l'impression que tu interroges en disant, mais de quel droit monsieur le réel te permet-il d'être aussi réel?
C'est pas qu'il se permette d'être aussi réel, mais de quel droit nous permettons-nous d'affirmer qu'il est si réel? Parce que le réel, nous ne pouvons pas l'approcher, c'est une asymptote. Nous le percevons par le biais de nos sens, c'est-à-dire que nous le traduisons perpétuellement. J'ai vécu 15 ans avec quelqu'un qui était un daltonien. Eh bien, excusez-moi, mais le fait que... Ah, nous avons tous les mêmes perceptions! Non! Lui, il regarde les Naffé Anne Monet, il trouve ça génial. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il voit? Parce qu'on lui a fait faire les expériences, on lui avait fait faire les expériences pour savoir quel type de daltonien il était. Il n'aurait dû voir qu'une espèce d'horrible machin. Non, non, il adorait les Naffé Anne Monet. Et quand on allait aux champignons, il les trouvait tous, moi j'en trouvais pas. Mais par contre, les cerises, il les voyait pas. Bah, excusez-moi, je vivais avec un extraterrestre. Et donc, c'était un être humain. Et pourtant, nos perceptions, notre cerveau était avec moi le même, mais nos perceptions étaient complètement différentes. Donc, le réel, c'est quoi? C'est ce que je vois comme le réel. Wow! Ce qui est extraordinaire, c'est que nous puissions avoir un consensus du réel et agir sur le réel. Et je vais me déplacer dans un avion avec ses petites ailes et ses petits boulons absolument pathétiques parce que nous entendons sur une certaine version du réel.
Essentiellement dérivé.
Oui, dérivé, excuse-moi. Bon, chaque fois que je regarde les ailes d'un avion, je me dis, c'est incroyable. Nous volons sur des mots. Nous avons inventé des mots pour nous décrire le réel et agir sur lui. Et il y a des équations qui correspondent à tous ces trucs-là, et à un moment donné, nous volons. Waouh ! Et on se demande après ça pourquoi j'ai pris de la science-fiction.
Oui, je dois t'avouer que si un jour ça t'intéresse que je t'amène à Airbus, on se fait une paire de jours à visiter les trucs et tout ça, je pense que là, non seulement tu ne monteras plus jamais dans un avion, mais je ne suis même pas sûr que tu rentreras en ta voiture. Alors donc, ce n'est peut-être pas nécessairement une bonne idée.
Non, c'est peut-être pas une bonne idée.
Mais en tout cas, cette interrogation de ce qui est non seulement le réel, mais l'interprétation qu'on en fait en disant « il y a une espèce d'interprétation majoritaire », eh ben non, je ne suis pas d'accord. Typiquement la chronique, c'est un truc, tu es en permanence alors que tu as construit quelque chose qui est déjà une remise en question de ce que nous connaissons, tu la remets elle-même en question de l'intérieur, et en disant « mais qu'est-ce qu'il y a encore derrière ?» Et alors là, on est largué à plusieurs niveaux, ce qui est le sentiment merveilleux d'étrangeté et de métamorphose de la science-fiction, qui d'une certaine façon t'oblige à une métamorphose du regard, mais toi tu es encore plus vicieuse. C'est-à-dire que dès que tu as fait l'effort de te métamorphoser pour entrer dans le livre, on te dit ben, c'est maintenant que les emmerdements commencent. Parce que tu vois là, quand tu es comme ça, ben, maintenant je vais te titiller et je ne sais pas où ça ira, et c'est à la limite que je vais te lâcher au milieu du gué, tu vas devoir débrouiller tout seul.
Alors voilà, vous êtes prévenus là, hein. Vous êtes prévenus. Si vous voulez lire du Bernard Bouffe, c'est ça.
Mais c'est quand même, je pense être honnête dans ma description,
oui,
c'est
tout à fait ça.
C'est quelque chose dans lequel toute métamorphose n'est jamais achevée.
Et j'espère bien.
Oui, mais ça revient à ton premier thème qui est « qu'est-ce que je lègue ?» Je ne peux léguer que ma plasticité et le désir que j'ai d'être plastique. Mais ceci est-il lui-même interrogé ?
Ah, je ne sais pas si c'est ça que je veux léguer.
En tout cas, c'est ça que d'une certaine façon dans ton dernier livre, et je dis, Reine de Mémoire est absolument fascinant de ce côté-là, c'est, je sais pas, épouse ta plasticité et à la limite joue avec.
Ok. Ouais. Ouais, ce serait effectivement l'attracteur étrange le plus puissant, ce serait celui-là. Est-ce qu'on a fini ?
Ben, je pense qu'on va laisser quand même poser des questions aux gens qui
veulent. Sinon, parce que si on n'avait pas assez de temps, je vous aurais lu un petit bout de machin sur justement la plasticité.
Un petit bout de plasticité.
Alors, question, un petit bout de plasticité.
Allez, on se fait un petit bout de plasticité, puis après, je passe la parole.
Ouais, okay.
Ouais, on a le temps. Parce qu'on est un peu bavard, Elisabeth.
Eh oui.
Alors, l'expérience du personnage ici, bon, c'est que il est dans la montagne, on l'a envoyé trouver une fille qui est peut-être folle, mais bon, et ils assistent à des. Ah bien, comment est-ce que je peux mettre ça en perspective ? Dans la magie officielle, le consensus du réel magique de cet univers, les créatures magiques n'existent pas. Les licornes, les nymphes, les dragons, ça n'existe pas. Et là, l'expérience qu'est en train de faire le personnage, là, c'est que lorsqu'il arrive voir cette fille, eh bien, il y a des nymphes qui arrivent accompagnées d'une licorne joueuse et qui vient brouter l'air de la trairie. Il se dit, ça y est, j'ai des hallucinations. Mais visiblement, l'autre personne qui est avec lui ne les voit pas parce que c'est quelqu'un qui a une incapacité particulière. Et la fille les voit. Et là, la vision du monde du jeune homme est complètement bouleversée parce qu'il y a déjà un moment qu'elle vacillait. Et alors ça se passe un peu comme ceci. Sanso aperçoit par-dessus l'épaule de la jeune fille les nymphes qui jouent toujours avec le chien. Elles non plus n'ont pas d'ombre. Et soudain, elles se lèvent. Ce ne sont plus des nymphes. Comme dans un éblouissement, Sanso les voit trembler, vaciller, se dissoudre en brume, mais pour se reconstituer presque aussitôt. Ce sont maintenant des créatures vêtues de voiles blancs, plus blancs que la licorne. Une couleur si pure qu'elle n'en est plus une teinte, mais une douleur. Ils leur font comme des ailes, ces voiles, les propulsant paresseusement dans le paysage. On distingue au travers de leur corps aussi. Dans leur visage aigu, tourné vers lui, brûle à la place des yeux un feu doré. L'une d'elles, la plus jeune, tient à deux mains une mince écharpe irisée, reliée par un fil au fuseau que serre la main droite de la seconde, une très vieille femme parcheminée, une femme mûre au contour maternel. La troisième, une très vieille femme parcheminée, porte dans sa main gauche une lame de flamme ondulante. Son seau reste figé. Puis avec un effort de volonté qui lui donne le vertige, il se détourne pour redescendre presque en courant vers le petit sentier et son ombre fraîche. Qu'a-t-il vu ? Il ne sait. Respect, stupeur, terreur et la certitude qu'il devait ne pas regarder plus longtemps. Des fées, des licornes, des créatures magiques impossibles, des fantaisies, des contes et des légendes de Madeleine. Les légendes sont-elles donc vraies ? Il se rend compte qu'il a parlé à haute voix, car l'archer qui l'a rejoint commande. pas toutes, mais certaines signalent des vérités oubliées.
Donc, à un moment donné, ce que tu lèves, c'est vraiment ça qu'on sait. Il est possible qu'il y ait quelque chose.
Il est possible qu'il y ait autre chose. Il y a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Oui,
il y a quelque chose.
Mais il est possible qu'il y ait autre chose. Waouh, quelle porte, quel courant d'air ouvert tout à coup.
Alors, avez-vous une question à poser à Elisabeth, compte tenu de ce qu'on vient de dire ?
Oui. Alors. Je vais faire attention à ce que je dis alors. Elisabeth, pendant les deux jours d'atelier d'écriture, j'ai remarqué qu'il y avait un mot que tu détestais, qui était le mot femelle. Tout à l'heure, tu disais que tu étais une féministe convaincue. Donc ma question est la suivante, c'est être féministe, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et en quoi ça a influencé ton œuvre par la suite?
Premièrement, je ne déteste pas le mot femelle. Où est-ce que tu es allé chercher ça, Kélio?
Si, tu avais repris deux fois. Enfin, c'était des termes qui te. Que
non, pas du tout.
Tu n'appréciais pas dans, dans le texte. Hein.
Ah, bah bon, peut-être qu'il ne convenait pas dans le texte, mais. Non, femelle. Un mâle, une femelle, non problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, être féministe, pour moi, c'est d'abord admettre que je suis une femme, ce qui m'a pris un certain temps quand même. Être une femme, je veux dire, la femme stéréotype, là. Quoique je n'y corresponde pas tellement, mais bon. Mais c'est surtout avoir des questions sur c'est quoi être une femme. C'est ça le féminisme pour moi, c'est mettre en question les certitudes qu'on a sur ce qu'est être une femme, ce qu'est être un homme, ce qu'est l'amour, le couple, les enfants, la parentitude, la maternité, toutes ces choses-là qu'on nous présente comme toutes faites, elles sont déjà là. Ben non, c'est pas parce qu'elles sont déjà là. D'abord, elles sont déjà là, elles n'ont pas toujours été là, et d'une, elles ont évolué, elles sont arrivées. Le rapport parent-enfant était très différent au XVIIe siècle ou au Moyen-Âge. La notion d'enfant, on essaie de nous refiler maintenant la maternité naturaliste, là. Gardez votre enfant dans votre lit, dormez avec. Enfin bon, mais ça change tout le temps. Il n'y a rien qui soit coulé dans le béton en ce qui concerne les êtres humains et les sociétés humaines. Nous sommes des systèmes dynamiques. Nous sommes chaotiques. Et le féminisme aussi se doit d'être chaotique au sens de non-déterministe. Enfin, c'est... Ben non, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça que ça veut dire chaotique, mais bon. Je vais faire un scientifique.
C'est un peu ça.
Ouais. C'est ça être féministe, c'est avoir un regard en biais. Ben, les femmes ayant longtemps été l'autre de la culture occidentale et étant encore l'autre d'un certain nombre de cultures, elles ont toujours eu la position privilégiée de l'autre, qui est d'être dans les marges et de regarder vers l'intérieur et de voir leur consensus réel du réel sous un autre angle. Nous voyons sous la jupe du réel. Nous voyons le dos du réel et le dos du réel, il n'a pas forcément des habits, on voit ses fesses. C'est une position intéressante. Et c'est une position qui amène à poser des questions. Bon, mais alors s'il n'a pas d'habit là, peut-être que l'habit qu'il a par devant n'est pas forcément bon non plus, il n'en a peut-être pas, peut-être que le roi est nu et toutes cette sorte de choses. Donc c'est ça être féministe. C'est aussi avoir un caillou dans son soulier qu'on ne peut pas retirer, parce qu'on ne peut pas retirer le soulier, et donc faire une femme, pof. C'est pour ça que le thème de la métamorphose et des métamorphes me fascine tellement. Yeah, on peut devenir un homme, une femme, un animal. S'il vous plaît, sortons de ce corps qu'on nous présente, que la société nous présente comme une cage, une boîte. Et moi, comme je vous ai dit, je n'aime pas les boîtes. Donc c'est tout ça, être féministe, c'est très pénible. Surtout quand on commence à devenir vieux. Vieille, en l'occurrence. Parce qu'on voit revenir des choses qu'on pensait acquises. Eh ben non, elles n'étaient pas acquises. Ah ben on l'avait dit il y a 20 ans, méfiez-vous les filles. C'est pas acquis ça. Ça peut changer n'importe quand. Ah ben oui, ben ça change justement. Oh. Bon, après moi le déluge. Non, je suis pas capable.
Je suis pas capable.
C'est tout ça, être féministe.
Merci.
Oui. Si le monsieur se déplace.
Bonjour, j'ai une question très anecdotique. J'ai lu juste les 4 premiers romans de Tyrannel, le 5e, je n'ai pas commencé. Je m'aperçois que c'est également le cas dans l'extrait que vous venez de nous lire. Vous écrivez vos romans au présent,
Est-ce que c'est volontaire, c'est...
Effectivement, ma position défaut de temps de narration, c'est le présent, effectivement. Et il y a aussi des romans que j'ai écrits au passé et que les gens lisent comme si c'était du présent. Alors là, ça me laisse un petit peu perplexe, parce que je pense que Chronique du Pays des Mers est écrit au passé. Oui, Chronique est écrit au passé. Et pourtant, dans ce roman-là, ça fonctionne comme du présent. Mais comme c'était Chronique du Pays des Mers et qu'il y avait cet effet de chronique et d'histoire parallèle, quelque sorte du futur, j'ai utilisé délibérément le passé. Mais effectivement, les premières versions étaient au présent. Et puis de toute façon, le présent, le passé, je peux basculer de l'un à l'autre très facilement. J'ai pas de problème, en tout cas du passé au présent. Le présent au passé, c'est un peu plus gênant. Mais du passé au présent, je bascule très facilement parce que je suis très souvent dans les pensées de mes personnages. Et je les préfère en direct, plutôt qu'en différé. Donc les pensées des personnages sont souvent au présent. Ou alors les actions des personnages sont au présent parce que bon, bah, c'est le présent, c'est l'action directe, c'est le présent cinématographique. Tout d'un coup, ça bascule dans une action trépidante. Et bon, on passe au présent. Mais j'aime, oui, c'est curieux. Je me suis... Alors voilà, tiens, une question. La question que je me pose, c'est est-ce que je le raconte au présent ou au passé? Et l'histoire me dit ça. Mais je ne me suis jamais demandé pourquoi l'histoire me dit ça. Il y a des moments où on ne regarde pas le cheval, on ne regarde pas les dents du cheval qu'on vous donne. Il y a certaines parties du cheval qu'on ne regarde pas. On regarde les sabots. Mais bon, non, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Pourquoi le présent? Ah ben ça y est, vous me laissez avec une question. Ah, c'est bien. Je vais me poser la question en rentrant. Pourquoi le présent? Parce que c'est une façon d'échapper au temps.
Est-ce que tu es capable de mettre en question tes propres évidences, qui sont, y compris les évidences qui te servent à mettre enfin, qui te servent à narrer? Est-ce que tu es...
Les évidences.
Est-ce, oui, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à mettre en question l'outil dont tu te sers pour regarder les choses?
Quoi, ma cervelle?
Non, ton microscope narratif.
Mon microscope narratif. Mon microscope, c'est quoi mon microscope?
Ton microscope narratif, comme tu dis, c'est par exemple le choix du présent. Ces évidences-là. Tu vois?
J'ai toujours d'excellentes raisons de choisir quelque chose. Peut-être pas forcément le temps de narration, effectivement. Si, parce que je sais les problèmes que ça pose en aval. Si je prends le présent pour ce type d'histoire-là, je vais avoir des problèmes parce qu'il va falloir que je fasse des retours en arrière et machin, parce que j'ai des informations à faire passer, etc. J'ai toujours de très bonnes raisons. C'est-à-dire que je peux toujours rationaliser mes choix. Maintenant, est-ce que ce sont les véritables raisons? Je n'en suis pas certaine. La rationalisation n'est pas la raison. Bon, mettre en question qui est-ce qui raconte, là aussi, j'ai vraiment des bonnes raisons. C'est mieux avec ce personnage-là parce qu'il en sait moins ou parce qu'il en sait davantage et donc ça sera plus pratique. Mais il y a aussi le fait que ce personnage est davantage moi ou que c'est celui qui m'est venu en premier et c'est donc lui le moteur de l'histoire. Mais ça va jusque-là. Je constate que j'ai un certain nombre d'évidences. Au niveau de, bon, ça va être ça. À partir du moment où j'ai décidé, où ça a décidé, où j'ai décidé, c'est moi qui décide, ça va être ça. J'ai conscience que ça pourrait être autre chose. Et que ça marcherait aussi, ça ferait quelque chose d'intéressant, mais ça ne clique pas pour moi, c'est pas ça pour moi. Donc c'est la limite, si tu veux, de mon interrogation, là. Je ne peux pas voir mon propre... Je suis dans mon propre aquarium, quand même. Il y a une limite à sortir de son propre aquarium. Il y a des choses que je ne peux pas voir. Et que je n'ai pas nécessairement besoin de voir. Hein, puisque je peux continuer à écrire, donc ça va. C'est le rôle des autres de me dire pourquoi. Ou de me dire, eh bien c'est parce que.
Tu es donc mémé sire du temps. Tu regardes et tu dis, c'est celle-ci.
C'est ça. Oh, mémé sire du temps. Moi, je vais. Mémé sire du temps. Je vais choisir ce. Comment est-ce qu'on dit hein,
cet avatar.
Cet avatar. Mémé sire du temps.
Pour attendre encore quelques années, quelques vélos.
Ah, oui.
Écoute, en tout cas, merci à Elisabeth pour cet entretien. Merci de ce que tu nous as lu, merci de ce que tu nous as laissé entrevoir, et ben, certainement à l'année prochaine.
Et merci à vous.